C'est une aventure un peu particulière, hein, ce que je veux vous raconter, qui explique l'illustration de l'affiche qui est sur la porte, parce que j'ai mis ici. Si, en fait, il s'agit de voir comment des libertaires exilés espagnols parviennent, c'est surtout ça, hein, le principal objectif de cette présentation, parviennent à publier ensemble des textes de ce qu'ils appelaient le grand écrivain Albert Camus. Et puis surtout vous dire pourquoi, c'est un peu la petite histoire de la littérature, littérature française, habitée, on va dire, par ces exilés espagnols. Alors, moi, comme vous savez, Carlos Hoesch est hispaniste, et j'ai eu le plaisir de le connaître à Barcelone, mais pas cette dernière fois, je l'avais connu en septembre déjà, il vient souvent. Et donc il m'a sollicité très récemment pour faire cette conférence. Je ne savais pas être d'abord une conférence, mais je tiens vraiment à le remercier pour cette invitation, parce qu'elle m'offre une occasion vraiment exceptionnelle de parler d'un sujet qui me tient à cœur, beaucoup plus que ce n'est ma spécialité. C'est vraiment quelque chose de très personnel, vu que, effectivement, donc je suis professeur de langue et littérature française à l'Université Pompeu Fabra, vingtiémiste, surtout camusienne. Et en fait, occasionnellement comparatiste, mais ce n'est pas exactement mon sujet. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis fille d'exilés espagnols, de réfugiés politiques. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai partagé souvent des inquiétudes à la maison de ces républicains qui essayaient de publier des textes, qui voulaient parler de Camus, etc. Et voilà, donc c'est un peu particulier de réussir à parler d'événements, on va dire, très... Si émotionnellement rapproché, si vous voulez. Mais bon, on va essayer, hein. Et c'est ce que j'ai préparé. Donc voilà, je dois le remercier parce que c'est, je vous dis, une belle occasion pour moi d'être ici. Il paraît que c'est dans la même salle où j'ai eu un neveu normalien qui a eu son agrégation. Donc ça devrait bien se passer pour moi. mais bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont plus orienté comme historien, mais je pense que mon intention, c'est surtout d'ouvrir des chemins, on va dire, des voies de discussion, des voies de débat, et c'est pas du tout un travail, donc fini ce que je vous présente là. Hein. Mais bon. Alors, et, voilà, présentation, les raisons du choix, donc je viens de vous dire un petit peu. Cette littérature française, elle est par rapport à ces exilés espagnols, on connaît d'abord la littérature française et la guerre civile espagnole. C'est ce qu'il y a quand même de plus connu. Là, j'ai indiqué quelques noms. Bon, dans les catégories mémoire et témoignage, on peut parler de Bernanos, on peut parler d'un... Alors, Jorge Semprún, en français, ça donne du Georges Semprún. C'est très drôle pour moi, ça. Et voilà. Et puis, dans ce qu'on pourrait appeler des fictions historiques, on pourrait avoir Malraux et son espoir non, pour la guerre civile espagnole. Bon, ça, c'est vraiment les grands noms, c'est vraiment des titres très connus qui nous parlent de la guerre civile espagnole. Ce n'est pas exactement ce que je tenais à présenter ici. J'oriente plutôt cette recherche sur la réception, on va dire, sur cette représentation des exilés espagnols dans la littérature française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va voir de ces exilés espagnols dans la littérature française. Mais après, on verra, il y a encore des catégories. Ce n'est pas seulement dans la littérature française. Mais que peut-on voir? On peut voir que forcément, ce sont des textes qui rappellent la guerre. Et en rappelant la guerre civile espagnole, ils rappellent les sacrifices faits par des personnes pour défendre une démocratie. Ce sont des textes où on voit aussi ces... expériences vécues, alors j'ai mis le mot en espagnol, c'est vivencias, non, c'est un très beau mot espagnol qu'on ne peut traduire que par expérience vécue. Voilà, donc c'est vivencias de l'exil. Donc on a aussi des textes qui nous parlent de ça. On peut avoir tous ces éléments en même temps, hein, d'ailleurs, dans les textes qui dénoncent la dictature franquiste, ça c'est vraiment très courant. Et là, on est dans un autre terrain thématique. C'est évoquer l'Espagne et ses classiques, une sorte de nostalgie d'une grande Espagne référentielle par ses classiques, par sa pensée classique. Et donc, c'est en fait, on en arrive à cette représentation d'une Espagne idéale grâce souvent à des personnages, des personnes qui sont elles-mêmes idéalisées. Hein, une Espagne idéalisée, même si vous voulez, à travers ces personnages qui sont idéalisés. Ben, il se trouve qu'il y a, au moins que je connaisse, un écrivain français qui fait tout ça en même temps, et c'est Albert Camus, effectivement. Mais on va y arriver. D'abord, je voulais vous présenter aussi des variations là, sur la question. Et dans la littérature française, on peut trouver donc, ces exilés qui sont mis en scène. J'ai des exemples tout à fait à la fin de ma présentation sur ça, d'autres auteurs qui ne sont pas Albert Camus, d'accord. On peut trouver des exilés qui sont remémorés, c'est-à-dire donc généralement des enfants, des petits-enfants qui rappellent le souvenir donc, de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont été exilés. Donc j'ai aussi d'autres exemples comme ça. Et on trouve aussi souvent, dans ces textes qui nous présentent ces exilés, des rappels des causes de l'exil et bien sûr de dénonciation. On retrouve ici Albert Camus et ses représentations de l'Espagne et des Espagnols. Mais ce n'est pas seulement des textes donc, dans la littérature française où on va trouver cette relation entre exilés espagnols et littérature française. C'est pour ça que le titre, ce n'était quand même pas « Les exilés dans la littérature française », c'était « et ». Parce qu'on peut aussi trouver dans la production espagnole, dans la production littéraire espagnole, des exilés qui reprennent, qui récupèrent, non, les paroles d'auteurs français. C'est un peu ça, ce que j'ai envie de vous présenter en particulier ici. Hein. Comment ces exilés reprennent cette parole d'Albert Camus, un peu cette aventure, comment ils y arrivent. Et puis, en deuxième instance, on a aussi ces nouvelles générations, aussi en Espagne, bien sûr, qui remémorent les exilés en France. Et là, je me rends compte, je n'ai pas écrit les noms, mais enfin, on en parle après. Bon, il y a des noms très connus, comme Antonio Muñoz Molina, ou enfin bon, des grands... Rosa Chafel, enfin, il y a des grands noms de la littérature espagnole qui peuvent ici nous venir en aide. Voilà, donc ça, c'est un peu cette présentation que je voulais faire pour situer le discours. Et puis, évidemment, on est en train de présenter une littérature qui offre énormément de difficultés pour témoigner. Il s'agit en même temps de récupérer une mémoire et en même temps de témoigner. Ce sont ce qu'on appelle les écritures de l'exil. Normalement, c'est ça ce titre-là, cet intitulé-là dans les études littéraires, hein, écriture de l'exil, écriture de mémoire. Bon. Et moi, ici, je n'ai pas indiqué écriture de l'exil, j'ai dit écriture en exil, parce que c'est encore des écritures qui ont du mal à arriver, des difficultés. Alors, par exemple, il y a cette expression que j'aime beaucoup et que j'ai récupérée aussi de Maria Teresa León, en fait, qui disait que les exilés sont au seuil de l'histoire. Hein. Ils ne sont pas encore tout à fait intégrés comme des éléments historiques actifs. Hein. Ils peuvent être des témoins, ils peuvent être des personnes que l'on peut écouter, mais apparemment, ben, ce n'est pas des héros, c'est exactement des anti-héros. Donc, ils vont rester à ce seuil de l'histoire. Bon, ça, c'est des questions qu'on peut se poser avec des historiens aussi. Hein. Donc, le rappel moins historique, c'est facile, c'est surtout en 1939, donc... C'est la retirada, la grande débâcle, non, c'est de ces exilés espagnols. Environ 500 000 ou plus de 500 000 exilés arrivent en France, hein, en particulier. Et puis après, donc, tout ça, 40 ans de dictature. C'est énorme, hein, 40 ans de dictature. Et toutes ces aventures de 500 000 et plus de 500 000 exilés, plus de 500 000 aventures, je vous assure. Et elles sont loin d'être toutes écrites. Donc voilà. Ça, c'est une première difficulté, ce volume et cette impossibilité d'arriver à être considérés comme non, des éléments actifs dans cette histoire, ce discours de l'histoire, on va dire. Et là, alors j'espère que tout le monde comprend l'espagnol, parce que j'ai mis pas mal de citations en espagnol. Et là, j'ai mis cette citation de María Teresa León, qui a été une compagne sentimentale de Rafael Alberti, quand même. Et bon, c'est pour la situer, hein. Autrement, c'est une bonne écrivaine, et c'est pour ça qu'elle est là. Voilà, donc dans sa Memoria de la Melancolia, elle exprime bien, je trouve, cette difficulté. Où elle dit: Habréis de perdonarme los capítulos que hablo de la guerra y del destierro de los españoles, la reiteración de las palabras tristes. Sí, tal vez sean el síntoma de mi incapacidad como historiador, pero no puedo disfrazarme. Donc, voilà ici comment elle-même se situe à ce seuil de l'histoire. Elle dit: Bon, je suis peut-être incapable d'être historienne, non? Pero no puedo disfrazarme. Ahí dejo únicamente mi participación en los hechos, lo que vi, lo que sentí, lo que oí, todo pasado por una confusión de recuerdos. Voilà, elle explique bien cette confusion de la mémoire. Et en même temps, moi je crois qu'elle présente bien le mot qui rend toute cette opération difficile, c'est le mot triste, c'est cette tristesse. Une tristesse profonde qui en arrive à être douloureuse, et c'est là où effectivement ben, on a du mal à s'exprimer. Et puis après, j'ai mis cette autre citation. Alors, ça, c'est vraiment un écrivain français, donc fils pareil d'exilé espagnol, de Serge Pey. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le Trésor de la guerre d'Espagne. C'est un recueil en fait de nouvelles où il raconte des anecdotes variées, je crois que c'est 15-17 nouvelles, et où il présente. Il est poète aussi, il faut dire, donc il présente avec une grande sensibilité, une grande précision des exemples de cette douleur de l'exil, d'expérience vécue, vivencias, non? Et parmi elles, j'aime beaucoup cette phrase où il est question à un moment où ils sont dans un train et il dit: ça sent le bétail. Et la différence entre ces animaux et nous, finalement, c'est que nous ne nous échappons pas, nous nous évadons. Les animaux, ils cherchent à s'échapper parce qu'ils savent aussi qu'être dans un train comme ça, bien serré comme le bétail, c'est pas bon signe. Donc ils veulent s'échapper, mais nous, non, on veut s'évader. C'est le poète qui parle là, évidemment, mais j'aime cette idée où on dit, voyons voir, on a un objectif d'évasion, c'est pas échapper, fuir la personne qui nous menace, non, c'est une évasion, ça va au-delà. Voilà, donc c'est vraiment un sentiment, et c'est quand même, ça me touche d'autant plus, et ça me parle d'autant plus que c'est ça, c'est un fils d'exilé aussi. Il n'a pas vécu ça exactement à la première personne, hein, mais il le rapporte très bien. On s'évade, on ne s'échappe pas. Bon, alors, on en arrive à Albert Camus. C'est l'exemple que je voulais vous présenter. D'abord, je vais vous présenter rapidement les excellentes raisons qu'avait Camus pour se sentir proche de l'Espagne et en particulier donc de ces exilés qu'il rencontre autant en Algérie que à Paris, hein, ou même ici à Lyon d'ailleurs, il en avait rencontré aussi. Ça me fait penser que tout à l'heure, il y a ici à la mairie du 2e arrondissement, c'est ça, une présentation justement de Camus et les Lyonnais. Voilà. Et on va y aller. Et puis, je viens de voir aussi une question espagnole. Là, à 4 heures, il y a votre lecteur de catalan qui fait la concurrence et
Oui.
il offre un apéritif catalan.
Oui,
Enfin, il offre, je ne sais pas, il y a annoncé apéritif catalan.
c'est pour ça qu'il manque un certain nombre de personnes.
Oui, ils sont à l'apéritif catalan. On peut aller là-bas en parler d'ailleurs. Bon. Donc Camus avait d'excellentes raisons de se sentir espagnol. Bon, vous savez que sa grand-mère était majorquine, mais à cette époque-là, on disait espagnole, en fait, même si elle venait des Baléares. Hein. C'est vrai qu'elle ne parlait pas forcément beaucoup l'espagnol, elle parlait probablement davantage la langue de son village de Saint-Louis. Ça, c'est difficile à savoir exactement. On sait pas, on a des bribes dans le premier homme, des témoignages, mais on n'a pas beaucoup d'éléments pour savoir exactement quelle langue se parlait à la maison. D'autant plus qu'en fait, il ne parlait pas beaucoup chez les Camus. Hein. Y avait l'oncle handicapé qui ne parlait pas, la mère qui avait aussi un problème d'expression. Ça ne parlait pas beaucoup chez les Camus. Et c'était la grand-mère qui parlait le plus. Il parlait surtout en français, probablement, un français plus ou moins arrangé, et le strict nécessaire pour arriver à s'en sortir dans la vie de tous les jours. Elle recevait de la famille. Et quand elle recevait de la famille, effectivement, là, on pouvait entendre autre chose. Hein, un peu d'espagnol, un peu de catalan. Mais c'est vrai que aussi le quartier où habitait Camus, donc à Bellecour, à Alger, il y avait des Espagnols aussi, donc là, ils pouvaient entendre des Espagnols dans la rue, enfin, c'est possible, d'accord ? Mais bon, c'est pas forcément ça qui l'a rendu si, on va dire, proche de ces Espagnols. Il idéalise complètement l'Espagne, alors sachez qu'il n'y est jamais allé. Il a tout juste fait un voyage à Majorque, en 1936, rapidement. Pour aller rejoindre sa femme, sa première femme qui était là. Et c'est tout. Après, il n'y est jamais allé pour la bonne raison qu'il y avait donc Franco déjà installé. Et, Camus n'est jamais allé en Espagne sous Franco. Et voilà. Idéalisation de l'Espagne. Ici, vous avez un exemple d'un paysage qu'il imagine qui peut être le même pour toute la Méditerranée. Bon, il a même des textes où il dit le port de Gênes, de Barcelone et d'Alger. Ils se ressemblent tous, ils sont tous pareils. Il n'a jamais vu le port de Barcelone, mais ce n'est pas grave. Et il imagine que ça peut être pareil. Donc il y a un peu cet esprit méditerranéen derrière. Et ça, c'est très fort dans cet imaginaire, on va dire, camusien. Donc voilà, cette citation, c'est d'un texte vraiment beau à connaître. C'est « La postérité du soleil ». C'est beau à connaître parce que c'est une trentaine d'aphorismes, en fait, un texte très bref de Camus, qui illustre des photos en noir et blanc du Vaucluse. C'est pas les photos qui illustrent le texte, hein, je dis bien que c'est le texte qui illustre les photos. Ils avaient fait une sélection avec René Char, donc c'est aussi un texte très poétique. Et donc vous avez là, j'aurais dû peut-être mettre la photo qui va avec ce texte, mais bon, c'est pas grave, vous la chercherez. Sur les terres du soleil, août éteint les couleurs, mais le froid resplendit. Le ciel est bleu de neige. Été noir, hiver d'or. La vraie force a deux visages. Alors ça, c'est le concentré, si vous voulez, de l'imaginaire camusien, à tous les niveaux, pratiquement, on peut dire, hein, si on voit bien la poétique de ces quelques lignes, parce que c'est cette structure dichotomique qu'on retrouve absolument partout dans les textes d'Albert Camus, où on a besoin des deux opposés qui sont en tension pour créer, qui sont dynamiques, etc. Et c'est vraiment sa vision à partir, si vous voulez, de cette expérience du paysage méditerranéen qui va au-delà d'une simple description. Hein, c'est vraiment des règles de vie qu'il adopte pour appréhender, on va dire, l'être humain. Il l'a dit à plusieurs reprises, hein, mais bon, je ne vais pas non plus vous faire crouler sous des citations de Camus, c'est pas l'objectif de l'après-midi. Donc, quelles sont les œuvres littéraires d'Albert Camus qui sont en rapport avec l'Espagne ? Donc, comme je vous le disais, il commence très tôt à s'intéresser à l'Espagne, et très tôt, c'est 1936, c'est un premier texte qu'il écrit, « Révolte dans les Asturies ». La révolte dans les Asturies a eu lieu en 1934, et Camus, en 1936, publie, et il voulait représenter donc cette rébellion en révolte dans les Asturies avec son théâtre de l'Équipe, qui a donc la représentation a été censurée, ils n'ont pas pu la représenter. Mais donc, son ami Charlot, qui avait déjà monté sa maison d'édition, a dit « Je publie ». Et donc, on a réussi à avoir une première édition en 1936 de cette révolte dans les Asturies. Alors, a priori, c'était donc une production du théâtre de l'équipe et c'était une production collective. Ce n'était pas présenté comme un texte d'Albert Camus, c'était présenté comme un texte collectif. Mais après ça, quand on a demandé aux autres membres du travail de l'équipe, mais alors comment vous avez fait pour écrire? Ils disaient non, c'est Camus qui a écrit, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est lui qui a écrit. En gros, c'était ça. Alors, les autres apportaient peut-être des idées ponctuellement, mais c'est Camus qui écrivait. Il paraît que Camus écrivait aussi parfois les examens de ses camarades. C'était vraiment sympa comme camarade de classe. Bon, voilà, donc première production, on va dire, de Camus en rapport avec l'Espagne. Donc, il s'intéresse à cette révolte espagnole dans les Asturies, à ce caractère d'homme révolté, déjà, si vous voulez, hein, avant la lettre, donc avant le titre de 1951. Plus tard, ce que l'on peut trouver comme autre participation de Camus par rapport à cette culture espagnole, c'est cette traduction. Alors, c'est assez particulier parce que c'est la première traduction du catalan, de ce poème de Maragall, du chant spirituel. Et donc, c'est Camus qui publie ça dans le Cheval de Troyes. Il a été aidé, parce que, comme je vous disais, il ne comprenait pas forcément le catalan. Il a été aidé par... il s'appelait Pere Pagès et son nom d'écrivain, c'est Victor Alba. Et pour l'occasion, il signait Pierre Page avec un S, hein, qui vient de son vrai nom, Pere Pagès. Mais en fait, c'était donc Victor Alba. C'est Victor Alba d'ailleurs qui lui avait proposé. Il disait, ah, c'est un texte magnifique, on va le faire. Et ils ont publié ça. Première traduction du texte de Maragall. Donc, proche que ce soit donc de la culture espagnole, de la dynamique de ces hommes révoltés espagnols. Et puis après, bon, vous savez, il a adapté. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les productions de Camus par rapport à la littérature espagnole. Mais bon, il a donc adapté Calderón, Quevedo. Enfin bon, il s'est vraiment beaucoup intéressé au classique espagnol. Voilà, ça c'était vraiment pour l'anecdote. Et puis ici, le texte que je préfère, c'est pour ça que je vais m'y étendre, celui-là oui, c'est donc le texte de théâtre, L'état de siège. Je ne sais pas si vous le connaissez, parce qu'il est très peu représenté. Alors on représente Caligula, on représente les justes, on représente le malentendu. Donc tout ça c'est vrai, c'est des pièces d'Albert Camus. Mais L'état de siège, on le représente peu. Pourtant, Albert Camus disait que c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est là où je me suis le plus investi, où il y a plus de moi-même. Et le problème, c'est que donc quand c'était bien Maria Cazares qui avait le rôle principal féminin, d'ailleurs. Mais ça a été ce qu'on appelle un four, vraiment, quand ça a été interprété en 1947. Et d'ailleurs, une des choses qu'on lui reprochait, c'était « Mais enfin... pourquoi vous parlez de l'Espagne en 1947, hein? C'est pas très intéressant. » Qu'est-ce qui se passe dans l'état de siège? L'autre chose qu'on lui reprochait, c'était que ça avait vraiment l'air d'être une adaptation de son roman La Peste au théâtre. Parce que ce qu'il y a, c'est ça, c'est un dictateur qui s'appelle La Peste, qui vient faire le siège, hein, de la ville de Cadix. D'accord? C'est assez particulier quand même que Camus ait choisi Cadix. Pas de grandes explications sur la question, on ne les trouve pas, mais enfin, c'est quand même à Cadix qu'il y a eu la rédaction de la première constitution espagnole. Donc, bon, il y a peut-être un rapport là-dedans quand même à voir, hein. Ce n'était pas innocent. Et bref, le dictateur arrive à Cadix. Tous les hommes politiques fuient la ville dans cette pièce de théâtre, c'est très beau à voir, ils partent. Et alors ceux qui restent se sentent, on les voit bâillonner, etc., jusqu'à ce qu'il y ait au moins un personnage, qui est un étudiant en médecine, qui invite et anime à la révolte. D'accord ? Il dit non, on n'a pas besoin de se taire comme ça, on peut répondre, on peut dire non, on peut dire qu'on ne va pas faire ce qu'ils nous demandent. Alors, Il y a ici, j'ai choisi, j'aime beaucoup cette, c'est une longue tirade du dictateur La Peste qui explique son grand programme pour Cadix quand il arrive. Et voilà, plus ou moins vers la fin de sa tirade, il dit ça. Jusqu'ici, vous mouriez à l'espagnol, un peu au hasard. Un mort par-ci, un mort par-là, celui-ci dans son lit, celui-là dans l'arène, mais c'était du libertinage. Mais heureusement, ce désordre va être administré. Une seule mort pour tous et selon le bel ordre d'une liste. Alors accompagne le dictateur La Peste une secrétaire avec ce calepin qui a la liste de tous les futures victimes donc, de la peste. Et elle les raye hein, sur son calepin, au fur et à mesure elle les raye, les gens meurent. Alors il s'avère vers la fin de la pièce de théâtre que cette secrétaire enlève son manteau imperméable et il s'avère que c'est la mort, hein, une allégorie de la mort. Voilà. Et voilà, donc vous voyez bien ici que cet ordre espagnol qui est en accord avec la nature réellement, non, un mort par-ci, un mort par-là, ben oui, c'est comme ça, c'est très naturel tout ça. Ben, l'ordre espagnol est tout à fait en opposition avec cette administration mécanique, non, de la peste qui vient ici prendre la ville de Cadix. Alors, cette pièce de théâtre de l'état de siège, elle appartient, c'est ma deuxième colonne, au cycle de la révolte. Camus avait très tôt envisagé de diviser sa production en trois cycles. Le premier était le cycle de l'absurde, donc avec l'étranger. Le deuxième était le cycle de la révolte avec la peste. Et le troisième était le cycle, on suppose que le nom aurait été de l'amour, mais il avait seulement là fixé le nom de sa représentation mythologique, c'était Némésis. Le premier, vous savez, c'est le mythe de Sisyphe, le deuxième, c'est le mythe de Prométhée, et donc le troisième, c'était le mythe de Sisyphe. Voilà. J'ai ici récupéré cette phrase de Jacqueline Lévy-Valenzi, qui a été une des premières camusiennes à voir l'importance de l'Espagne chez Camus. Et c'est pour ça que j'aime bien la citer, et qui disait que de l'état de siège, que c'était une œuvre véritable, aux richesses étonnantes. C'est vraiment... il y a beaucoup de... C'est très lyrique, si vous voulez, cet état de siège. Donc, il y a vraiment une richesse presque inépuisable dans le texte de l'état de siège. Il y a un cœur de femme, là j'ai pas mis, il y a un cœur de femme qui chante cette nature, etc. C'est vraiment une structure complexe et bon, voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on la monte rarement en scène, parce que c'est vraiment complexe et difficile à monter. Ah oui, si j'en parle, chez Diego, Maria et le cœur des femmes, c'est le symbole de la terre et de la résilience, en fait, non ? Cette résistance qui est toujours capable de se renouveler, c'est surtout le cœur des femmes. Diego, c'est donc le personnage principal, cet étudiant en médecine, et Maria, c'est donc le personnage féminin principal qui est la fiancée de Diego. Voilà, donc pour vous dire que Camus portait vraiment ce sentiment d'homme espagnol révolté, on va dire, en lui. Il le vivait comme si c'était lui-même, quelque chose comme ça. Donc, rien d'étonnant à ce qu'il soit adopté par ces libertaires espagnols. C'est tout à fait presque naturel, on peut dire. Et donc, quand on lui demande, mais pourquoi vous m'avez fait l'action de l'état de siège se déroule en Espagne, alors que finalement on a bien d'autres dictatures qui nous inquiètent plus, qui étaient à l'Est, n'est-ce pas, à cette époque-là, en 1947, Camus fait sa défense, on va dire, de l'état de siège. C'est une réponse donc à Gabriel Marcel qui lui demandait, mais pourquoi l'Espagne, on ne voit pas, c'est aucun intérêt. Et il dit, oui, moi, je vais expliquer pourquoi l'Espagne. Et dans son « Pourquoi l'Espagne », bon, il y a ces citations-là, mais il y a aussi ça fait déjà plus de 10 ans que l'Espagne vit en dictature, et tant que l'Espagne vivra en dictature, l'Europe ne pourra rien faire de bon. Hein, c'était vraiment une idée que Camus ne cessait de répéter. Alors, ici, pour ce qui est réellement de ces personnes, il dit, voilà, faire parler le peuple de la chair et de la fierté, Pour lui, c'est faire parler le peuple espagnol, c'est vice-versa. Hein. Et il disait que cette pièce prend le parti de l'individu, de la chair, dans ce qu'elle a de noble, de l'amour terrestre, enfin. Vous voyez comment cette noblesse à laquelle se rapporte Camus, bah, c'est loin d'être une noblesse aristocratique, on va dire, c'est bien une noblesse humaine qui se rapporte à la chair, comme il le dit avant, et à un amour terrestre. Hein, c'est très... un contact, c'est très... voilà. Présentiel. Et c'est pour ça bon, que j'ai indiqué ici que ces décors mythiques sont méditerranéens, mais très inspirés de cet imaginaire que Camus crée autour de cette image de l'Espagne. Donc, c'est Méditerranée élargie pour les idées, on va dire, à partir de l'Espagne. Voilà.